Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL où les conversations se poursuivent dans On est fait pour s'entendre. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 15h30. Et si tous les regards sont rivés vers la Grande-Bretagne depuis l'annonce de la mort du prince Philippe, c'est à la France que nous allons nous intéresser pendant une heure. Je vous le disais, on va parler de notre façon de parler, justement. Ça commence fort. D'aujourd'hui à si j'aurais cru, en passant par le brainstorming sur le process pendant la conf call, il est un mal parlé français qui fait parfois mal aux oreilles. Alors entre les tics de langage, les fautes de conjugaison, les fautes de syntaxe et les anglicismes, à tout va, notre langue est-elle malmenée? Assiste-t-on à sa dégradation ou a-t-on tendance à oublier qu'elle est simplement vivante et donc qu'elle évolue? On en parle avec vous. Vous êtes très nombreux à réagir, hein, et puis vous avez tous vos tics et vos horreurs, je dirais. Et également en compagnie de nos invités. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Flavie Flamand.
Soyez la bienvenue sur RTL, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes maîtresse de conférences en linguistique à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous êtes également dramaturge et autrice de l'ouvrage « Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous ». Au jour d'aujourd'hui, apparaît justement dans votre livre. Et c'est au top, je dirais, des fautes de français qui sont soulevées par nos auditeurs. Il va falloir préciser que selon votre ouvrage, c'est pas complètement une faute. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. À vos côtés, Étienne Kern. Bonjour, Étienne.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous êtes professeur en classe préparatoire et auteur des jolies fautes de français de nos grands écrivains aux éditions Payot. Ce qui veut dire que personne n'échappe à la règle de la faute de français.
Et oui, c'est ça. La faute de français est peut-être la chose du monde la mieux partagée.
Oui, c'est ça. Et même par les plus grands, hein, voilà. Je dirais. Alors, un petit peu d'indulgence. En ligne avec nous, Michel Feltin-Palas. Bonjour, Michel.
Bonjour, Flavie.
Soyez le bienvenu. Vous êtes rédacteur en chef à l'Express et auteur d'une lettre d'information sur la langue française et sur les langues de France, sur le bout des langues. Justement, Michel Feltin-Palas, est-ce qu'il est des régions qui parlent un français qui pourrait, pour d'autres régions, apparaître un français, je dirais, malmené?
Oui, bien sûr, puisqu'il y a des différences régionales. Et on a tendance en France à considérer qu'il y a une seule manière de bien parler français, qui est, pour simplifier, la manière qu'avait la bourgeoisie parisienne de parler le français. Elle a considéré que toutes les autres manières de parler étaient fautives, alors que ce sont souvent des variantes, simplement.
Alors, on va en parler avec vous, avec nos auditeurs. On accueille tout de suite Christophe. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL. Merci Christophe d'être avec nous. Vous avez 45 ans. Et vous, il est des fautes de français qui vous horripilent?
Oui, c'est constant, c'est tous les jours, aussi bien dans les médias qu'au travail. Enfin voilà, on est submergé par ces erreurs.
Quelles sont celles qui vous écorchent les oreilles?
Alors, régulièrement, on a les gens qui sont jeunes parents et qui disent voilà, on va fêter les 1 an de notre fils, ou alors le malgré que j'ai été au Canada, ça ne va pas en s'améliorant. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que ça. Effectivement, j'ai les oreilles qui saignent.
Et alors, les vôtres saignent parce que vous n'en commettez jamais d'erreurs?
Alors si, mais je sais reconnaître celles sur lesquelles je vais buter et tout de suite avant d'y arriver, je corrige tout de suite pour être certain de ne pas faire d'impair.
Lesquelles, par exemple?
Alors typiquement, on a le malgré que qui peut revenir dès que je commence à dire malgré tout de suite. Je fais cette relation avec le bien que, donc je corrige tout de suite le tir. Voilà, il y a plein de choses comme ça.
Alors,
qui font...
pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprendraient pas la subtilité que vous êtes en train de soulever, qui est une subtilité de la langue française, et je pense qu'on est très nombreux à commettre cette faute en parlant, c'est que le malgré que est toujours suivi du mauvais temps, en fait. Hein. Je me tourne vers Julie Neveu, qui est linguiste. Julie, d'habitude, on dit...
Il y a rapport d'opposition, en fait, que alors, malgré et bien que ont en commun, et c'est pour ça que Christophe et d'autres donc se trompent, enfin, on sont tentés de se tromper, et donc, si je dis, attends, malgré sa gentillesse, il est bête, Ouais. Vous voyez, j'oppose deux plans sur mon argumentation.
D'accord.
Et bien qu'il soit gentil, il est bête. Bien qu'il soit beau, il est bête. C'est le même type d'opposition. Donc on a envie de mettre que sur
d'accord.
le modèle de bien que.
D'accord.
Mais malgré n'est pas du tout une conjonction qui introduit une phrase, une proposition, mais simplement qui introduit un nom, un syntagme
d'accord.
nominal.
Étienne voilà. Kern.
Oui, malgré s'emploie tout seul en fait. Malgré
voilà.
sa gentillesse ou je sais pas quoi.
D'accord.
Alors que bien que. Mais ce qui était intéressant dans le témoignage, j'ai trouvé, c'est l'idée que la faute est provoquée par en fait une volonté de bien faire.
Oui.
On pense à bien que, on pense à une tournure qui est un peu plus compliquée parce qu'elle implique le subjonctif.
Oui, c'est ça.
Et du coup, le malgré devient encore plus compliqué, devient malgré que. Donc il y a une forme ici d'hypercorrection.
À vouloir bien parler.
Voilà, ouais. À vouloir bien parler, souvent, le mieux, l'ennemi du bien. Et
voilà.
On trébuche, et ça, c'est très fréquent en fait dans la langue française.
Et puis il y a aussi l'emploi du temps après que. Christophe.
Du mode.
Alors pour le après que c'est forcément toujours de l'indicatif.
Ouais.
C'est vrai que tous les jours on entend des gens qui mettent du futur. C'est vraiment c'est une erreur quoi.
Alors exemple Julie.
Alors en fait je pense qu'on entend surtout des gens qui mettent du subjonctif, c'est-à-dire après que tu sois venu est censé ne pas être la règle. Alors mettons ok on imagine une situation quelqu'un ouais. qui se fait quitter. Ok et il décrit la situation, il dit à celui qui est venu le quitter qu'il a beaucoup pleuré quand il est parti. Après que tu es venu j'ai beaucoup pleuré, ok. Et avec l'indicatif, après que tu es venu, on envisage que ça s'est vraiment passé, et donc la séquence chronologique, tu es venu, j'ai pleuré. Après que tu sois venu, qui est la faute, mais on va parler de ça, faute est très normatif, et donc
bien
bon,
sûr.
C'est une erreur, c'est en effet moins fréquent, mais de plus en plus fréquent, et sans doute que bientôt, ce ne sera plus du tout perçu comme une faute. Donc après que tu sois venu, j'ai pleuré, paraît moins logique, puisque le subjonctif qui est exprimé dans « soi » décroche de la réalité. Donc ça fait comme s'il n'était pas vraiment venu, mais on a pleuré quand même.
Voilà. Allez, quand même. Hop. Non mais c'est intéressant parce que ça, il y a aussi la musicalité, hein, je dirais Étienne Kern,
oui.
et parfois aussi un français bien parlé a une musicalité à notre oreille assez. La musicalité de l'erreur.
Oui, on a avant que en tête, en fait, quand on prononce après que. Donc avant qu'il soit venu, là, ça s'impose comme ça. Et du coup, la musique de ce avant que, qui a le même nombre de syllabes que après que, nous entraîne à être tenté par le subjonctif.
Julie ?
Oui, pour rebondir sur la musicalité, en fait, on parle de phonétique, c'est-à-dire que Christophe a dit, ça lui écorchait, non, que ses oreilles saignaient, et vous, Flavie, vous avez dit que les oreilles étaient écorchées. Tout ça est très intéressant, car en fait, pourquoi il y a ce sentiment d'agression ? On va en parler, je pense, pendant toute cette heure, mais c'est vrai que c'est parce que la langue française, et pour la plupart d'entre nous qui avons cette chance-là, notre langue maternelle, et c'est celle qu'on parle dans la vie de tous les jours, et donc il y a un sentiment très fort, qu'elle va être menacée, on l'abîme, mais ça. Et donc la phonétique aussi est une habitude très profonde
oui.
qu'on a depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Si elle parlait français, on acquiert déjà des systèmes d'habitudes phonétiques. Pas que tout vient de là. Donc voilà, on a l'impression qu'on est bousculé de l'intérieur. Mais je remarque juste que Christophe faisait preuve de vigilance à son propre égard, ce qui est très louable, autant qu'à l'égard des autres. Mais sans doute que s'il dégonflait cette crispation, peut-être, Christophe, il ferait moins de fautes et il serait moins énervé.
On va vous dégonfler. On va vous dégonfler votre crispation. Christophe, vous êtes prêt ou pas pour l'opération? Attendez. Christophe, je vous garde parce que vous partagez l'avis de certains de nos auditeurs. C'est que dans la chanson, il y a bien souvent des fautes de français. Voilà. Et ça, pour le coup, vous le vivez comme une agression. Surtout le rap, hein, nous avez-vous confié en préparant cette émission. Vous restez avec nous, Christophe? On va écouter un petit peu de musique. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Ah, quand on parle français, parfois, effectivement, on a l'impression de marcher dans le brouillard. On a des messages qui nous arrivent, évidemment, sur les réseaux. Marie, qui nous écrit « Malgré que, comme même les fameuses liaisons malta propos, vachement dangereuses, comme dit mon chéri, du genre 100 €, 20 €, je m'étrangle. Je dois sûrement raisonner comme, pardonnez-moi l'expression, comme un vieux con. Donc, mais quand j'entends les génies de la nouvelle télé-réalité parler, par moments j'ai très mal à ma langue maternelle », nous écrit Marie. Dans ce studio, Julie Neveu, qui est normalienne, agrégée d'anglais et maîtresse de conférences en linguistique à l'université de Paris-Sorbonne, c'est un peu la prof, hein. Voilà. À ses côtés, on a Étienne Kern, qui est professeur justement en classe préparatoire et auteur de différents ouvrages, et notamment sur le tutoiement ou le vouvoiement chez Flammarion. Et Michel Feltin-Palas, vous êtes rédacteur en chef à l'Express. Et en ligne, Christophe, vous avez 45 ans et vous venez de nous expliquer effectivement qu'il y a des fautes qui vous font saigner les oreilles, mais que vous en commettez parfois aussi à vouloir bien faire, mais vous vous corrigez toujours, vous avez vraiment à cœur de bien parler. En revanche, vous incriminez le rap français.
Oui.
Bah, vous pouvez y aller, hein, ils ne vont pas vous manger. Hein. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, Christophe?
Alors en fait, dans la chanson actuelle, et particulièrement le rap, c'est vrai que Maître Gims est quand même l'exemple, je dirais, à ne pas suivre. Enfin, il y en a d'autres, hein. On a Soprano, Calogero, voilà, il y en a toute une flopée. On a aussi, dans la chanson qu'on vient d'entendre, on a entendu une belle dislocation. Alors, ce qui était dit, c'était l'avenir, c'est loin. Alors, on a le même problème avec les hommes politiques. Quand ils disent la France, elle a des atouts, la France, elle a le visage. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Et tout à l'heure, il y avait un auditeur qui vous a écrit concernant les liaisons avec les chiffres. Mm-hmm. Mais donc là, j'étais sur l'histoire des hommes politiques et Emmanuel Macron a dit là, lors d'un discours en septembre l'année dernière, 4000 enfants et adolescents. Donc c'est quelque chose qui, de son statut, est impardonnable apparemment, puisque des articles sont sortis dans les journaux et l'intérêt en lui-même de son discours est complètement passé sous le tapis. En fait, on n'en parle plus. Ce qui vraiment importe, c'était la faute qu'il a commise. Donc en fait, maintenant, on en oublie le fond pour mettre en avant la forme.
On va revenir à la chanson, si vous le voulez bien, et après, on parlera de l'exemplarité avec nos invités. Si vous parliez du rap, peut-être connaissez-vous Sniper, qui chante La France, vous connaissez ou pas ?
De nom, oui.
Eh bien, écoutez, Christophe.
On baisse pas la tête, on n'est pas prêts de s'avouer vaincus, des frères béton, tous victimes de trahison. De toute façon, s'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison. La délinquance augmente, même les plus jeunes.
De toute façon, s'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison. Il y a également 113 avec sa chanson Au Summum.
Dans un coin fond, ça joue aux cartes comme au casino.
Comme dans casino.
Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. On sait qui part au boulot. Avec une mauvaise mine en pensant à Dovi. Hey.
Pigé, Julie Neveu, on sait c'est qui domine ici. Hein, voilà.
Super,
vous avez compris, Étienne? Alors, là, pour le coup, Christophe, vous trouvez qu'effectivement, ce ne sont pas des exemples pour la jeunesse?
Si j'aurais pas su, j'aurais pas venu.
Alors, et en même temps, alors, donc ça veut dire que vous pensez vraiment que les interprètes de peut-être un petit peu plus anciens, je sais pas, des années 60, 70, parlaient mieux le français?
Pas du tout.
Chantez mieux le français? D'accord.
Parce qu'on a des exemples avec Renaud, par exemple.
Ouais.
On a Eddie Mitchell, Véronique Sanson. Enfin, voilà.
Non, mais c'est pas vrai, mais donc je ne peux pas vous coincer. Écoutez Eddie Mitchell avec pas de boogie-woogie.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir.
Alors, il va falloir nous expliquer le « reprenez avec moi tous en cœur », on va y revenir, parce que c'est « reprenez avec moi ». Est-ce qu'on fait la liaison d'ailleurs, Gilles Neveu ?« Reprenez avec moi », voilà, hein, c'est ça.
Mais là,
c'est...
il a voulu la faire bien. Et
mais
du coup,
pourquoi
il a été entraîné par l'infinitif, parce que sans doute que d'habitude, il s'applique à prononcer la liaison derrière l'infinitif, je pense.
Michel Feltin-Palas, c'est votre génération, ça vous avait remarqué, cette faute
Pardon, mais j'ai vu débuter, moi, j'étais son impresario. Merci, ton avis.
Et alors, justement, est-ce que vous aviez noté ça? Parce que moi, je me souviens, gamine, ça m'a servi justement à ne jamais commettre l'erreur.
Non, mais bien sûr, mais ce qui est intéressant, moi qui suis qui a à peu près 350 ans, comme je dis gentiment dans le rappeler, c'est de savoir qu'il y a un certain nombre de fautes qui ont été commises dans le passé qui sont devenues la règle aujourd'hui. Il y en a une que j'adore, que je vous cite, par exemple, le nombril. Nous disons tous que nous avons le nombril au milieu du ventre. Eh bien, à l'origine, on ne dit pas du tout nombril, on dit un ombril, sans N, comme cordon ombilical. On disait l'ombril, mais à force de le dire avec on a dit un nombril, un nombril, un nombril, on a fini par ajouter un N qui ne se justifie absolument pas. Et donc, tous les Français qui disent un nombril, le nombril, c'est comme si l'on disait le navion, si vous voulez. C'est exactement la même faute, mais c'est une faute que dont nous avons pris l'habitude et nous n'y faisons plus attention. Il y a comme ça beaucoup dans le français, beaucoup d'exemples de ce
Alors,
les erreurs d'hier deviennent la règle d'aujourd'hui.
Ouais,
et enfin, il est possible que les erreurs d'aujourd'hui deviennent la règle demain.
Alors, on y reviendra justement, mais enfin, pourvu qu'on ne parle pas comme Eddie Mitchell dans Boogie Woogie. Et on va terminer quand même si on en passera tout au long de cette émission. Christophe, vous avez avez cité Véronique Sanson. Peut-être faites-vous référence à cette chanson-là.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
Je fais ce que j'ai envie. Est-ce qu'on est bien dans la France, Étienne Kern?
Mais moi, rien ne me choque dès qu'on est dans une chanson. C'est comme en poésie.
Ah bon?
Mais quand Verlaine écrit « Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville », c'est une liberté que l'écrivain, que le chanteur, que l'artiste s'octroie, et je trouve ça tout à fait normal. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Monterland, qui est un homme de théâtre, enfin dramaturge du XXe siècle, qui dit « C'est à l'audace de leur faute de grammaire qu'on reconnaît les grands écrivains ». Et je pense qu'on pourrait dire la même chose des chanteurs.
Oui, alors des chanteurs, des artistes, mais est-ce que, je ne sais pas, nous qui sommes des personnes tout à fait lambda, Christophe ou moi, pouvons aussi faire ce genre de faute? Est-ce que c'est grave?
Ça dépend dans quel état d'esprit, si j'ose dire. Je pense qu'il y a une dimension ludique, en fait, dans le rapport à la langue. Et la petite faute charmante, calculée, voulue, qui crée un effet de complicité, me paraît très, très jolie, en fait.
Il y a une certaine poésie dans cette petite faute-là. Ouais. On se retrouve dans un instant en direct sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Au jour d'aujourd'hui, les Français, ils croient qu'ils sont bons en français malgré que des fois on leur dit que non, nous écrit Christelle. Si vous sachiez le nombre de fois où les gens parlent mal, si j'aurais su plus tôt c'était quoi le thème de l'émission, j'aurais enregistré les gens autour de moi. Merci beaucoup Christelle pour ce message. Aujourd'hui on s'intéresse à notre façon de parler la France. Et Dorothée va intervenir dans un instant. Mais Christophe, avec vous, on vient de se repasser une partie de la chanson française. On a encore effectivement d'autres artistes à découvrir sous un autre jour peut-être. Je crois que Julie Neveu avait envie de vous poser une question, Christophe.
Oui, une question très simple en fait. Je me demandais quel était votre métier, si c'était possible, parce que je trouve que vous êtes très technique, vous avez parlé de dislocation. Alors c'est quelque chose quand même que peu de gens autour de moi connaissent.
Est-ce que vous êtes dans l'univers, parce que vous pensez qu'il était prof de français, hein?
Ouais, je me suis dit, c'est pas possible qu'il sache ça. Comment il sait ça?
Comment il sait ça, Christophe?
Alors, pas du tout, je suis responsable de sécurité informatique.
D'accord.
Ma mère était prof d'espagnol.
Ah
donc, et j'ai fait du latin et du grec.
Ah, Alors ça donne le goût.
Non, mais ça donne le goût du purisme, peut-être.
Exactement. Ouais. En tout cas, merci Christophe d'avoir ouvert le bal de la conversation aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Merci. À la prochaine. Merci. Salut Christophe. Bonjour Dorothée.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va bien, je vous remercie.
Merci d'être avec nous. Et qu'est-ce qui vous arrive?
Je n'ai pas entendu tout ce que vous disiez là.
Non, je dis qu'est-ce qui vous arrive, parce que vous avez l'air d'être tout en joie.
Je suis contente de passer à l'antenne en fait. Je suis contente d'être avec vous.
Eh ben, soyez la bienvenue, ça nous fait plaisir de vous accueillir aussi. Alors,
c'est gentil.
Vous, c'est qu'est-ce qui vous agace le plus?
Moi, c'était les 100 euros, les 20 euros, je ne sais
pas. D'accord, donc les liaisons qui n'existent pas.
Ah oui, c'est un petit peu compliqué pour moi d'entendre ces trucs-là.
Ouais.
Pour l'anecdote, mon mari le disait quand on s'est rencontrés.
Oh, il vous a plu, quand même?
C'était super. Je lui dis là, il faut que soit tu fais des efforts, soit on s'arrête maintenant.
Et est-ce que ça aurait pu être rédhibitoire ou pas?
Oui.
Ouais. Bah oui, non, mais je peux comprendre.
Oui. Alors après, je suis pas linguiste. Alors je me suis dit, j'écoutais l'émission jusqu'à maintenant. Je me suis dit, oulala, si je passe à l'antenne et que j'ai fait une faute de français, ils vont le souligner.
Ah, mais là aujourd'hui, c'est ambiance sniper. Hein. Je vous confirme qu'effectivement, même moi, je suis stressée dans ma façon de m'exprimer aujourd'hui. Je ne suis pas très à l'aise, alors que d'habitude, j'ai plutôt la parole facile.
Mais pas du tout. Nous, on adore les fautes, Dorothée.
Je suis quand même un petit peu timide. Alors je.
Pas du tout.
Et Dorothée, vous avez remarqué aussi que les gens croivent souvent.
Ça, oui, ça, ils croivent, alors ça, je peux pas. Et j'avoue que quand j'en entends certains dans les discussions, j'ai tendance à reprendre la formulation peut-être en face de moi pour corriger, parce que c'est vraiment insupportable.
Alors, mais d'où ça vient ce verbe croiver, Julie Neveu?
Je pense que c'est par analogie avec d'autres verbes comme doivent, et que vous savez, la mémoire linguistique, elle, comme dans tous les domaines, elle marche par modèle prioritaire. Donc, moi, j'ai un enfant de 4 ans qui dit j'ai ouvri la porte. Et parce qu'il pense à dormi, vous voyez, des régularités. Donc, ce sont d'autres régularités qui l'emportent sur le fonctionnement de tel ou tel mot, quoi.
Vous l'envoyez au coin quand il fait une faute de
pas
français?
Du tout, parce... Bravo mon chéri, tu as intégré la règle, mais pour les autres verbes.
Étienne Kern.
Eh bien, j'ai trouvé charmant dans le témoignage qu'on a entendu le rapport possible entre la faute et l'amour. Ouais. D'abord, l'idée qu'on puisse amender sa manière de parler par égard pour quelqu'un dont on ne veut pas écorcher les oreilles. J'ai vécu la même chose en amour aussi, puisque je viens d'Alsace et pendant très longtemps, j'ai dit que je cherche le pain, alors que je suis censé aller chercher le pain. C'est un alsacianisme. Et mon épouse a attiré mon attention sur ça et je l'ai corrigé. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est aussi peut-être que votre conjoint... je m'adresse à Stéphanie,
oui,
je crois.
Oui, absolument.
Oui, peut-être Dorothée. Dorothée, pardon, excusez-moi. Oui. Peut-être que le conjoint de Dorothée faisait ses fautes parce qu'il était ému d'être face à elle. Parce qu'il y a une très jolie phrase de Balzac qui dit qu'il n'y a pas d'orthographe pour le cœur et que très souvent, c'est l'émotion, c'est le sentiment qui est à l'origine de la faute de français.
Je vous conseille
un exemple en littérature de ça.
Je vous conseille une chanson de Charles Aznavour sur le même thème qui s'appelle « Je t'aime, A-I-M-E », qui effectivement parle aussi des fautes d'orthographe lorsque l'on est amoureux.
Il y a une chanson de Gainsbourg aussi qui s'appelle « En relisant ta lettre » ou « Les fautes d'orthographe ».
On aurait dû faire une émission musicale, moi, je vous dis. Ah, on aurait dû passer des disques. Attention, j'ai une neveu.
Est-ce que je peux prendre la défense du mec de Dorothée?
Ah bah je vous en prie, au contraire.
Vous voulez prendre la défense de mon mari?
Oui, s'il vous plaît.
Allez-y.
Elle ne fait que prendre sa défense, hein. Elle ne lui prend pas le cœur.
Non, bien sûr. Non, je n'ai pas jusque là. Donc, non, mais c'est juste que, vous voyez, dans la société, il y a déjà assez de moments, il y a ce qu'on appelle en linguistique l'insécurité linguistique, c'est-à-dire le sentiment d'être jugé, qu'on va mal parler. Moi, je suis très contre, c'est-à-dire, je trouve qu'il faut des lieux où on est totalement détendu, où il n'y a pas d'enjeu social ou de correction, vous voyez. Et si le couple est un endroit où il faut se corriger linguistiquement, je trouve ça dur, moi. J'aimerais pas qu'on me... Voilà, ensuite...
Ouais, il est content. Il est content parce qu'il est à côté de moi et puis il voulait témoigner.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Alexandre.
Oui, mais moi, je trouve que c'est... Je peux comprendre que... Par exemple, moi, je suis amoureuse de quelqu'un qui parle très, très bien.
Ouais.
Et ces mots me font voyager, m'emmènent loin.
Ah oui, donc, mais que ce soit, que ça rentre.
Je peux comprendre que ça puisse être...
Oui. Bien sûr. Et inversement, dans la distance.
Exactement.
Après, une fois qu'on a choisi de s'embarquer...
Oui.
Voilà, mais tant mieux s'il s'est amendé, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis contre la dictature du bien parler. D'ailleurs, le bon usage, pour moi, n'est pas une... Enfin, c'est juste une question de normes et de variations.
Ouais.
Comme Michel l'a dit tout à l'heure, il y a des variations partout en France. On n'est pas du tout conscient de ces variations, nous, puisqu'on est là à être nés dans cette langue majoritairement parlée autour de nous, de la même façon que nous.
On va rejoindre Michel Feltin-Palas rapidement. Effectivement, on entendait Étienne Kern nous parler d'alsacianisme. Donc, Michel Feltin-Palas, on fait tous nos fautes de français en fonction des endroits dans lesquels on vit.
Oui, alors ce ne sont pas des fautes,
hein,
ce sont des variantes simplement. Mais alors, j'en cite quelques-unes grâce à un linguiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathieu Avandi, qui les repère. Par exemple, dans le sud, vous ne dites pas ça m'étonne, vous dites ça m'espante. À Lyon, quand vous faites la tête, vous avez la ronfle. En Corse, quand vous faites une promenade, vous faites un monte et descend. Puis il y en a un que j'aime beaucoup qui vient de la Lorraine, c'est vous ne mangez pas un œuf dur, mais un œuf cuit dur. Ce ne sont pas des fautes, ce sont des manières différentes de parler français, et je trouve qu'on devrait être un tout petit peu plus tolérant sur ce type de variation. Après, je suis plus strict sur ce qui sont, de mon point de vue, de vraies fautes de français.
Alors, on va se retrouver dans un instant, on va passer par l'information sur RTL. Dorothée, on vous embrasse, et si vous le permettez, Julie et moi embrassons Alexandre. Voilà.
il est
je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL.
Merci à vous. Merci,
allez, place à l'info sur RTL.
Ça vit flamand sur RTL.
Poursuit.
14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Michel Feltin-Palas, il est auteur d'un livre avec Jean-Michel Apathy, J'ai un accent et alors, chez Michel Lafon, Étienne Kern, les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains, c'est aux éditions Payot, et puis Julie Neveu, Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous, aux éditions Grasset. Merci d'être avec nous et nos invités jusqu'à 15h30. On parle de nos fautes de français, donc, et cette façon que l'on a de parler. Alors, il y a Yo qui aime nuancer, et je pense que ça va vous plaire. Je lis les commentaires de la police du français, mais il ne me semble pas que ce soit un phénomène si récent. La langue a toujours été malmenée et ça, on l'oublie un peu vite. À l'époque de mon grand-père, peu de gens étaient scolarisés au-delà du certificat d'études. Pensez-vous sincèrement que tous ces gens parlaient et écrivaient un français parfait? Certainement pas, sauf qu'à l'époque, les gens discutaient au bistrot, pas sur Facebook, et ils pensaient plus à vivre et moins à faire la morale. Respecter la langue française, je suis pour. La faire évoluer, je suis pour aussi. C'est une langue vivante. Mais dire que le français est mal malmenée par les jeunes, eh bien ce n'est pas nouveau. CF, confère donc Renaud dans ses débuts qui malmenait volontairement la langue. Et même plus ancien, la chanson de Gavroche, c'est la faute à Rousseau. Michel Feltin-Palace, une réaction au témoignage de Yo.
Oui, bien sûr. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que objectivement, l'orthographe de nos grands-parents était meilleure que la nôtre en moyenne. Mais pour des raisons simples, c'est que le temps consacré à l'orthographe au cours des études était considérablement plus important qu'aujourd'hui. Donc, de fait, le niveau en orthographe était a baissé, mais ça ne vient pas évidemment d'un problème neuronal qui toucherait les jeunes générations par rapport aux anciennes. C'est simplement que le temps consacré à l'apprentissage de l'orthographe a été considérablement réduit. Voilà la raison, mais donc oui, le niveau moyen en orthographe a baissé, mais pour cette raison-là, simplement. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que l'orthographe n'est pas le français. Bien sûr, c'est mieux d'avoir une bonne orthographe qu'une mauvaise orthographe, mais avoir une bonne syntaxe, avoir une richesse de vocabulaire, être capable d'argumenter correctement, c'est au moins aussi important que d'écrire des inepties avec une orthographe impeccable.
Évidemment. Julie Neveu, la langue est vivante.
Oui, c'était très très bien dit de la part de Yo.
Ouais, c'est Yo.
Non, mais
Yo.
Fait, le titre de l'émission, c'est ça, est-ce qu'on malmène ? On malmène quelqu'un si c'est une personne vivante. On ne peut malmener, on ne peut pas malmener les morts. Enfin, vous voyez ? Et donc, en fait, bien sûr qu'elle elle est bousculée. Elle est bousculée parce qu'elle rencontre d'autres cultures, d'autres influences. On prend un mot anglais parce qu'on s'approprie un outil de cette culture. Et donc, oui, elle évolue. Et cette évolution est perçue par la majorité comme une menace, et c'est ça que moi j'essaie de relativiser, c'est-à-dire qu'il faut tout mettre en perspective. Voltaire disait déjà que le français était en déclin de tout temps. Il y a eu des gens pour dire que c'était pas possible, on parlait de plus en plus mal, donc il faut relativiser. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé français, autant communiqué, et ça peut-être est un gain, même si peut-être il y a plus de variations dans les orthographes, etc.
Alors, on va passer par un petit extrait de Renaud, et on va revenir à vous, Étienne Kern. Je vais vous lire un message de Carole.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront.
Bon, alors ça, c'est la marque de fabrique de Renaud, je dirais. C'était quelque part, d'ailleurs, un Gavroche. Ces mots, il avait les mots du bitume, les mots du port et de la mer. Carole nous écrit sur Facebook, palier A, malgré que, rémunéré, moi personnellement, j'en passe et des meilleurs. Oui, l'utilisation du français est malmenée et malheureusement, les réformes de l'orthographe n'améliorent rien. Sans parler de l'appauvrissement du vocabulaire, je me demande comment les nouvelles générations pourront lire les œuvres de nos grands poètes et auteurs d'ici quelques années. Julie Neveu faisait référence à Voltaire. Est-ce que vous pensez véritablement que les jeunes aujourd'hui aient un français à ce point appauvri qu'ils n'auront jamais la compréhension de nos grands auteurs ?
Alors moi qui enseigne la littérature, effectivement, oui. Je suis confronté à une difficulté que les élèves ont face aux textes un peu anciens. Mais c'est lié à ce que Michel disait tout à l'heure, c'est-à-dire un manque de temps consacré au cours des études à des questions lexicales. Mais une fois qu'on a mis à plat certaines difficultés, tout va bien, je veux dire, les connexions du cerveau sont là et tout va bien.
Oui.
Mais c'est toujours intéressant que ce soit les jeunes qui soient accusés. C'est vieux comme le monde, en fait, qu'on accuse, tu l'as dit tout à l'heure, qu'on accuse les jeunes de faire des choix en quelque sorte la langue. En 1913, par exemple, et ça fait longtemps, un critique littéraire de l'époque est très connu, dit visiblement, les jeunes ne savent plus du tout le français, ça devient de la barbarie, ça devient du patois. Et ça, il le dit à propos du premier tome de La Recherche du Temps Perdu de Proust. Et c'est dans un grand journal sur Proust en 1913.
C'est génial. Attends, on va y revenir à ça et à cette notion du patois. Je vous entends rire, Michel Feltin-Palace. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Ah, ça y va les messages. Je déteste entendre ce qu'ils ont ou encore dire ils au lieu de elles, genre ils sont où les clés, ou bien mais cela en parlant des chaussures, mais cela. Confusion donc entre le féminin et le masculin. On parle de parler le français. Je sais pas si je suis très claire. C'est vendredi et je suis très stressée avec tous nos invités qui s'y connaissent si bien. Audrey arrive sur cette antenne. Bonjour Audrey.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous.
Merci.
On parlait, c'est intéressant, il y a un instant aussi des régions, et vous, et du patois notamment, vous vous interrogiez peut-être sur certains tics de langage.
Oui, tout à fait. Alors, des tics de langage, des habitudes, des choses que j'ai remarquées depuis que je suis installée dans cette région.
Vous êtes où ?
Alors, je suis en Vendée.
D'accord, ok. Alors, comment ça se passe en Vendée ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens en Vendée ?
Je trouve qu'ils parlent pas très bien.
Wow, bah, ils vont être contents, ceux qui nous écoutent. Ouais.
Non, mais voilà, j'ai remarqué beaucoup de choses qui ne se disent pas dans ma région et d'origine, et probablement que l'inverse est d'actualité aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. Vous venez d'où ? Vous venez d'où, Audrey ?
Je suis de la région grenobloise.
D'accord, ok. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez entendu en Vendée que vous ne connaissiez pas lorsque vous étiez du côté de Grenoble ?
Ben, par exemple, quand même.
Comme même.
Celui-là, comme même, à la place de quand même.
D'accord.
C'est quelque chose que j'entends énormément ici.
Ouais.
Également, alors celui-là, il est insupportable. Je vais te faire montrer.
Je vais te faire montrer. Montrer.
Je vais te faire montrer. Viens là, je vais te faire montrer quelque chose. Au
d'accord.
lieu de te faire voir ou te montrer, quoi. Une petite contraction des deux.
D'accord, ok.
Et c'est vrai que ça, ici, je l'entends énormément.
Oui.
Et puis après, alors je sais pas si ça fait partie des fautes, mais par exemple dire je vais serpiller, moi je serpille pas, je passe la serpillière.
D'accord.
Je suis dure, peut-être un
mais,
petit peu,
mais je me suis demandé si vous aviez été bien intégrée dans la région.
C'est un petit peu compliqué. Non, voilà.
Alors, c'est intéressant parce que dernièrement, alors attends, moi c'est un Belge, hein. Alors bon, que je salue s'il nous écoute. Qu'est-ce qu'il m'a dit dernièrement? Mais c'était la serviette, le lave-main était là. Clinette ou un truc comme ça. Enfin bon, c'était effectivement une sorte d'anglicisme. Alors, il y a Julie Neveu qui opine du chef. Après, on ira voir Michel Feltin-Palas qui est spécialiste des langues de France.
Oui, je laisserai Michel parler des langues de France. Mais en fait, moi, ce que je remarque là qui est intéressant, déjà, c'est que c'est toujours la perception de l'autre dans son altérité qui nous dérange. Donc là, Audrey, finalement, voilà. Et c'est, vous savez, depuis que des termes.
Ça l'a fait marrer.
Depuis que des termes sont apparus pour servir notre gêne par rapport à l'autre, il y a évidemment le terme jargon qui est origine. À l'origine, vous voulez dire le gazouille des oiseaux.
Hein,
on traite d'animaux tous ceux qui ne parlent pas comme nous. Il y a barbarisme. Hein, barbarisme, les barbares chez les Grecs, c'était ceux qui ne parlaient pas bien le grec. Donc voilà, c'est toujours la perception de la différence. Je trouve ça intéressant. Et après, serpiller, vous savez, Audrey, moi je déplore souvent qu'en français, franco-français, là, on n'utilise pas assez de verbes, enfin avec le moyen. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en français d'Afrique, ils disent ambiancer, cigaretter, siester. Et d'ailleurs, s'ambiancer est arrivé en français.
Mais bien sûr,
voilà.
C'est ce que j'allais dire.
Et oui, tout à fait, ça vient de cette... Et donc, moi, pour moi, c'est une plus grande souplesse. Et on remarque souvent, quand on compare à d'autres langues, que le français... Le français est peu souple, et tant mieux, vive les Vendéens. Qu'est-ce que Grenoble peut dire?
Et oui, qu'est-ce que dirait Grenoble dans ces circonstances-là?
Il passe la serpillière, mais
il
c'est beaucoup plus long, il passe
c'est
beaucoup
vrai.
Plus de temps.
Oui, c'est vrai.
Alors,
mais j'avoue dire... Je vais siester, ça m'arrive. Alors, vous voyez.
Ah, tu vois, vous étiez déjà un petit peu vendéenne, sans
savoir. Alors, on va demander à Michel Feltin-Palas de réagir parce qu'il doit rire de son côté, Michel.
Oui, tout à fait. Mais la réaction est très révélatrice. C'est-à-dire que nous sommes éduqués à l'école avec la notion de faute de français. On nous apprend une manière, qu'il n'y aurait qu'une seule manière de bien parler français et que toutes les différences seraient des fautes. Or, un certain nombre de ces différences sont des variations, simplement. Et on n'est pas éduqué à cela, on n'est pas éduqué à la variation. L'exemple que citait Julie est très très bon. Siester, ça n'est pas une faute de français, c'est une manière différente de parler français. Et il faudrait que l'on s'ouvre à nos différences régionales en France, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, dans toute la francophonie, on peut s'enrichir. Moi, il y a un mot que j'ai appris récemment, qui est girafé, qui nous vient d'Afrique aussi. Girafé, c'est se pencher quand on est à l'école sur la copie de son voisin, tendre le cou pour copier sur lui. Je trouve ça formidable. C'est un enrichissement, évidemment. Et pas une faute.
Et très imagé.
Malheureusement, en France,
très imagé.
Par rapport au patois, vous voyez, c'est un terme qui a été utilisé. Je pense que c'est un terme qu'il faut proscrire. L'étymologie de patois, c'est gesticuler avec les mains comme les sourds-muets. C'est un terme affreux qui a été inventé à Paris pour discréditer toutes les autres langues de France, pour asseoir la supposée supériorité linguistique du français. C'est l'équivalent, si vous voulez, de youpin pour dire juif ou de négro pour parler de quelqu'un qui est d'Afrique noire. Donc c'est un terme à proscrire. Il n'y a pas de patois. Il y a des langues différentes. L'une est devenue la langue officielle, pas les autres. Très bien. Mais ne discréditons pas les autres langues de France en les appelant d'un terme péjoratif.
D'accord, Michel. On a compris, Michel. Vous avez compris, Audrey. On dit merci, le professeur. On dit plus rien, Audrey. Ok, on serpille. On serpille en silence. On vous laisse aller serpiller en silence. Et puis, on vous remercie de nous avoir appelé, Audrey. On vous embrasse, Audrey. Merci pour votre fidélité.
Merci beaucoup.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Alors, Étienne Kern, il a levé le doigt comme ça, alors que c'est lui le professeur hein, en classe préparatoire. Il m'a dit, est-ce que je pourrais rebondir sur Michel Feltin-Palas? Alors, j'imagine que c'était rebondir sur les propos de Michel.
Oui, au sens pas figuré, Michel, j'espère.
Au sens figuré, évidemment. Que vouliez-vous dire, mon cher Étienne Kern, avant qu'on accueille très rapidement Ludivine?
Eh bien, j'ai trouvé passionnant toutes ces explications. Et il a mille fois raison de nous rappeler que les mots qu'on emploie pour ces quatre figures ne sont pas neutres. Que le mot patois est lourd de sens.
Tout à fait.
Mais que le mot faute en lui-même connote des tas de choses. Parce qu'une faute implique une culpabilité, appelle peut-être une punition, et même quand on y pense, s'inscrit dans un schéma de pensée religieux. Parce qu'il y a un côté paradis perdu, faute, péché, quelque chose comme ça. Alors qu'un terme comme erreur, par exemple, qui lui connote plutôt une rectification possible, une correction, et pas une punition, serait plus neutre pour
oui,
le
et
coup.
Et on peut apprendre de ses erreurs.
Oui.
Oui,
et c'est vrai qu'on peut toujours apprendre de ses
fautes. Et on doit s'excuser de ses fautes, exactement.
Oui.
Sarah faute. Nous écrit, je suis d'accord sur le fait que l'on malmène notre langue, mais il faut dire aussi que l'on parle différemment d'un siècle à l'autre. Le fait de malmener la langue amène l'évolution de celle-ci. Pas toujours dans le bon sens, ça peut être regrettable, mais parfois cela peut être également bénéfique. La belle langue française d'aujourd'hui existe, mais la belle langue française du siècle dernier est devenue obsolète, et c'est tout simplement une évolution. Ludivine est là, parce que alors là, je ne sais pas si c'est une erreur ou une faute. Enfin, on peut la corriger. Ludivine, bonjour.
Oui, bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue. On arrive à la fin de notre émission. Merci pour votre patience, pardonnez-moi.
Mais Ludivine, je suis régalée.
Ah bon, bah, génial. Nous aussi, on vous en proposera encore des émissions dans ce genre. Vous entendez une faute qui revient régulièrement au-delà des « ils croivent » et compagnie.
Léa et les deux.
Alors, allons-y.
La robe de Salomé, pas la robe à Salomé.
Alors, avec votre air agacé, là.
Non, mais ça qu'est-ce m'exaspère.
Mais alors, vous savez, je suis d'accord. Est-ce que vos enfants ont fait cette faute?
Bien sûr.
Et comment les avez-vous corrigés?
Je dis deux.
Ah, d'accord.
Juste ça.
Alors,
elle
moi, j'ai.
Je dis nanana à machin et je dis deux.
Alors, moi, j'ai un truc. Est-ce que j'ai le droit, Julie Neveu, de le dire? Je vais essayer de le dire
polyphètement.
Mais elle est bonne, ma méthode.
Elle est magnifique. Elle est
bonne.
Ludivine,
ainsi que tous les auditeurs. Moi aussi, un jour, mes enfants sont. Alors, pardonnez-moi, ils étaient. Bon, mais enfin, j'ai pas trouvé autre chose, mais je peux vous assurer qu'ils ne font plus cette faute. Ils sont venus, ils ont fait effectivement. C'est le copain à Sébastien. Et je leur ai dit, alors, ça n'est pas très élégant, donc je ne le prononcerai pas comme ça, mais on dit un fils de. On dit pas un fils à Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Oui, nous ici on dit un poil de
Exactement. Exactement. Comme le poil de Mais c'est tellement vrai.
Et ici aussi on dit la règle des cucu et des didi.
C'est quoi
mais
ça?
C'est quoi?
Eh ben, au lieu de dire c'est qui conduit le cucu, et donne-moi-en des zizi avec des z partout.
Ah,
c'est pas
mais
mal.
Donc,
mais ça, c'est une bonne
ah non,
technique.
Mais donc voilà. Ah oui, bah, il y avait le poil. Bah, moi, c'était le fils.
Voilà. Bah, non, c'est la classe.
Bah, écoutez, c'est la classe, mais en même temps, le message passe. Vous êtes d'accord avec moi?
Ah, ça passe à tout coup.
Ah bah voilà. Bon, ils ne font plus cette erreur. Et alors, savez-vous aussi, vous dites quand vous faites du vélo, vous dites que vous êtes venu un vélo. Vous êtes venu
à vélo.
À vélo. Et pourquoi?
Je ne sais pas.
Parce qu'on enfourche.
J'avoue, mon inculture totale.
Parce qu'on enfourche. Vous connaissiez ça, Julie,
et
ou pas?
Du tout.
Bah, moi, je pense toujours à mon temps qui chantait à bicyclette, mais on dit à vélo, à cheval, à mobilette, à moto. Et donc, ça veut dire qu'on est à dada. Voilà. Mmh. Et donc, voilà. Et sinon, on dit en quand on est dans un. Tout le monde
en
me regarde.
En voiture.
Voilà, en voiture. Merci, Ludivine.
Je vous en prie.
Écoutez, c'était le poil 2, c'est super. Ça, je pense que voilà. Je vais le garder. Je vous remercie, Ludivine, pour votre truc. Parce que
prie.
Ça, c'était super. Et je me permets de vous embrasser, de vous souhaiter un bon week-end. Merci,
moi,
Ludivine.
Bonne émission.
Alors, et Julie, c'est super. On a tous, en fait, des trucs pour aider peut-être nos enfants à ne pas commettre. Alors, il est des erreurs et puis il est des fautes quand même. Et ça, c'en était une belle.
Et oui, il est important de trouver un moyen qui soit efficace. Après, peu importe la classe.
Exactement, du moment que ça passe.
Du moment que ça passe.
Je vous remercie d'avoir été notre invitée, Julie Neveu.
Merci.
Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous. C'est votre ouvrage aux éditions Grasset. C'était un plaisir, comme à chaque fois. Bientôt, on se retrouvera pour parler de notre façon d'écrire. Hein. Donc, vous serez avec nous parce qu'on parlera du langage texto. Étienne Kern, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui s'est dit aujourd'hui? Un peu d'indulgence, quand même, vis-à-vis de notre langue française?
Oui, de l'indulgence. Et puis, on a beaucoup réfléchi sur ce que les mots disent implicitement. Et j'enchaînerai peut-être avec une dernière petite merveille de la langue comme ça, c'est que étymologiquement le mot grammaire, qu'on n'a pas beaucoup employé mais qui tournait quand même autour de nos conversations, le mot grammaire est lié au mot grimoire et il est aussi lié au mot glamour. La grammaire est glamour étymologiquement. L'adjectif glamour vient, en passant par l'anglais, du mot grimoire, qui vient lui-même de grammaire. Un grimoire, c'est un livre de magie.
C'est
parce
beau.
Que au Moyen-Âge, la grammaire est considérée comme magique, pleine de codes, de formules magiques en latin. Et glamour a comme sens premier magique, merveilleux, et prend un sens un peu différent.
Vous
mais
j'aime
plaire, bien
là,
rappeler à mes élèves que la grammaire peut avoir son charme, son caractère glamour.
C'est très joliment dit en tout cas. Vos livres que je vais citer aujourd'hui et que je conseille à nos auditeurs, Les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains aux éditions Payot et Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses, c'est passionnant, c'est Flammarion. Merci beaucoup Étienne Kern. Michel Feltin-Palas, on ne s'est pas tout dit. On
non.
aurait pu poursuivre, parce que la langue, évidemment, et ses accents partout en France est passionnante. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Michel. Je rappelle votre lettre d'information sur la langue française et les langues de France sur le site de l'Express. Ça s'appelle « Sur le bout des langues ». Et votre livre « J'ai un accent et alors » coécrit avec Jean-Michel Apathy, comme par hasard, aux éditions voilà. Michel Lafon. Merci beaucoup, Michel Feltin-Palas.
Merci.
À bientôt sur RTL.
Bientôt,
merci à vous tous de nous avoir été fidèles et vous avez beaucoup réagi. C'est vendredi, je vous souhaite à tous le meilleur week-end possible. Demain, je serai l'ami de votre petit déjeuner avec Nous Voilà Bien, c'est votre magazine Conso, dès 9h15 sur RTL. Et puis lundi, la réflexion collective reprendra du service à 14h30. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. Bon week-end.
Flavie Flamand sur RTL.